Radio Libertaire 89.4.
Mercredi, 16h. Radio Libertaire, le Ferry Club.
La Radio Libertaire.
Voilà, ça je pense, peu de gens le savent, c'est la passion de Léo Ferré, l'imprimerie. Et il faut être passionné d'imprimerie pour avoir ce matériel de professionnel. Pourquoi?
Parce que j'aime, comme vous voulez le dire, j'aime l'imprimerie, puis parce que ce qui m'a donné l'idée de devenir éditeur et imprimeur, enfin, c'est parce que depuis 2 ans, Madeleine, tous les soirs au magnétophone, raconte sa vie de... sa vie de mère, sa vie de femme. Et ça fait un livre qui s'appelle Les Mémoires de Magnétophone. Alors comme je voulais faire ça un jour, j'ai voulu commencer à faire quelque chose avec mes mains pour Madeleine.
Madeleine, c'est quand même une preuve assez étonnante de gentillesse. Et en plus, Madeleine, je crois que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, enfin, de le voir travailler comme ça, non?
Alors, 60... En 67, ils sont donc à Gourdon. Oui, en 66... Qu'est-ce que je dis, 67? 66 ou 7, merde, je ne sais plus. Je me dispute avec le nouveau patron de mon contreplaqué. Très, très, très dur. Je ne pouvais pas le blairer, ce con-là. Je le chope au callback. Attends, moi, j'ai pas de retenue. Hein. Hélas. Et il me fout à la porte. Il me fait signer une lettre de démission et je me retrouve bec dans l'eau. Là-dessus, le lendemain, le surlendemain, Léo et Madeleine viennent à Paris. On est en train de bouffer à la Lorraine, place des Ternes. Et je lui raconte. Il me dit, eh ben ça tombe bien, j'ai besoin de toi, Gourdon. Il avait, toujours mordu par le démon de l'imprimerie, il avait fait installer dans une dépendance, disons. Il avait acheté une imprimerie, une vraie de vraie, pas une offset de bureau cette fois, hein. Une vraie offset énorme, tu vois, grande comme la table, là. Et tout le matériel nécessaire, si bien que je suis descendu avec eux et que je me suis installé à Gourdon, tout seul. Raymond est resté avec les enfants, bien entendu, mais enfin bon, c'était expliqué.
Précisément, tu avais quel statut, là?
Comment?
Quel statut tu avais, là?
Par rapport à qui?
Tu étais rémunéré, tu étais...
À Gourdon?
Oui.
Oui, beaucoup moins que je ne l'étais dans le contreplaqué. Mais non seulement j'étais nourri, logé, et je touchais, je ne sais plus, je te dirais 300 balles, que j'envoyais à Raymond pour qu'elle fasse manger les enfants. Voilà mon statut. C'est-à-dire, c'était pas terrible, mais j'étais foutu à la porte, j'avais plus que d'aller à bouffer. Alors, donc, je m'installe à Gourdon. Léo avait reçu l'ingénieur allemand, c'était des machines Heidelberg allemandes. Il avait appris le maniement en 2-3 jours. Hein. Attention, il a été doué. Hein. Et il m'a transmis, c'est-à-dire que j'ai appris, moi, à faire marcher. Et j'ai donc vécu là avec eux une bonne année, petite année, enfin. En assistant au crépage de chignon, entre guillemets, hein, entre Léo et Madeleine, ça allait de plus en plus mal. Et moi, j'en avais plein l'os, tu vois. Je veux dire, c'était...
La cloche fêlée.
Amer et doux pendant les nuits d'hiver, écouter près du feu qui palpite,
qui fumait, les souvenirs lointains lentement s'élevaient, le bruit des carillons chante dans la brume. Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante, jette fidèlement son cri religieux, ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente. Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie au bord d'un lac de sang, sous un grattat de mort, et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts.
Et Madeleine, s'emmerder, qu'est-ce que tu veux, cette Parisienne exubérante, etc., dans les bois, qu'est-ce que tu veux qu'elle foute, la vaisselle? Alors, il lui avait dit, tu sais pas, tu devrais écrire tes mémoires. Et donc, elle avait un petit magnéto, et qu'est-ce que je dis, un petit nom, un vrai magnéto à l'époque, et elle a commencé à dicter ce qui est devenu les mémoires d'un magnétophone. Et alors Léo avait acheté une diatype. La diatype était une petite machine où tu tapais ton texte qui apparaissait et en même temps tu réglais ta justification, etc. etc. Et après, tu tirais des négatifs. Qu'est-ce que je dis des négatifs? Des positifs. Voilà, il avait tout ce qu'il fallait pour faire un bouquin. Il a passé beaucoup de temps sur sa diatype à taper les textes de Madeleine. Et quand ça a été fini, je passe sur des tas de trucs, quand ça a été fini, ben on l'a mis en place. On l'a mis en place et on a commencé à imprimer les mémoires d'un magnétophone. Voilà. Mais entre-temps, ça allait très très mal entre eux.
Trop d'animaux.
Alors, ben attends, j'ai oublié ça. Parce que Pépé, ça ne suffisait pas. Un cirque est venu à Gourdon, il a fallu qu'elle achète 1, 2, 3, 4 chimpanzés. Une femelle, mais adulte, dont il me reste des traces, elle m'a mordu un jour, et trois petits, Bambino, Zaza et Zizi. Voilà. Ça, plus un poney, une chèvre, je te dis pas, il y avait même un cochon qu'ils avaient acheté au paysan voisin, Baba, qui était gentil comme tout, qui rentrait à la maison, s'asseoir devant la télévision avec Pépé, regardait la télévision tous les deux. On me dit, t'as pas pris de photo? Bon, pff, moi, c'était normal, tout ça. Il y avait quoi? Il y avait le troupeau de vaches et le troupeau de moutons du paysan voisin, le pauvre mec, il n'avait pas de peau. Mazé, il s'appelait. Maurice, qu'est-ce que c'est que la vie d'un paysan qui n'a pas de jambon pendu au plafond? J'achète mon pâté à la coop. Ah oui, oui, le mec, il l'avait sec, hein. Mais bon, c'était ferré. Et j'ai dit, attends, le pognon qu'on me donne, tu le prends, hein. Bon, ça va. Alors, donc, il y avait tout ce bordel épouvantable, mais surtout, il y avait ces soirées. Dur, dur, dur. Jusqu'au jour où Madeleine s'est mise en tête que c'est moi qui dressais Léo contre elle.
Ces soirées, quand tu dis ces soirées en tête à tête, tu veux dire?
Ben, nous étions en tête à tête à
ouais,
trois.
Ouais, ouais.
Oui, on avait bouffé. Et on allait prendre un scotch ou je sais pas quoi à côté, et puis je sais pas, enfin, dans le feu. Et tant et si bien qu'un beau jour, on s'est disputé, Madeleine et moi. Elle m'a traité d'en passé, ou je me rappelle plus quoi, ce que je peux comprendre. Et j'ai dit, bon, je termine mon boulot. Alors, j'ai terminé la mise en sous couverture et tout le bazar des mémoires de magnétophone. Et le jour où j'ai terminé, 8000 exemplaires, on en avait tiré. Et le jour où j'ai terminé, je mangeais plus chez eux.
Comment ils vivaient ça, Léo?
Très mal. Ils le vivaient très mal, ils l'avaient sec, quoi.
Et ils prenaient fait et cause pour toi, ou plutôt pour Madeleine? Il était entre les deux
Ils prenaient fait et cause pour moi. Mais c'est qu'elle, c'était un sacré... Attends, hein.
La mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent, il pourtant d'éthique noire, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux teintures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à l'aine, et dans ses yeux fermés voyait des points. Sur le soir, à la lampe, on le voyait là-haut, qui râlait sous la rampe, sous un golfe de jour pendant du toit. L'été surtout, vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là, tranquille, et livrant ses narines. Avait des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison en hiver s'illunait, gisant au pied d'un mur enterré dans la marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire, et tout vieillot conversait avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon. Elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, la liberté ravie, forêt, soleil, rive, savane. Il s'aidait de journaux illustrés ou rouges. Il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Les blafards dimanche de décembre, où accommodé sur un guéridon d'acajou. Il lisait une Bible à la tranche verchou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes qu'au soir fauve, noirs en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs en trois roulements de tambour font autour des édits rire et gronder les fous. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums saints, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue aux persiennes closes, au thé bleu, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs, de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement des routes et pitié, que se faisait la rumeur du quartier en bas, seul et couché sur des pièces de toile écrue, et pressentant violemment la voix.
En février 68, il avait un gala, plusieurs galas, deux ou trois galas, à la Comédie de Saint-Étienne, avec Popol. Popol rentre à Paris et me dit « il faut que je te vois tout de suite, Maurice ». Donc on se rend compte que, comme on se faisait tenter plus. Et il me dit « voilà, il y a eu un drame, ils se sont disputés avec Madeleine ». Et au moment de rentrer en scène, Madeleine lui a donné un coup de poing dans le visage et lui a cassé une dent de devant. Alors, Léo m'a dit, écoute, Popol, moi je peux plus. Si on en arrive là, je peux plus, quoi. Est-ce que tu sais si Maurice accepterait de retravailler avec moi? Popol dit, je vais lui demander. Et donc, il me le demande. Je lui dis, écoute, Popol, moi, je vis tant bien que mal actuellement en vendant des encyclopédies Nathan de porte-à-porte, où je gagne des haricots, d'une part. Puis moi, j'ai gardé mon amitié pour Léo. Si Léo veut retravailler avec moi, oui, mais pas avec Madeleine. Bon. Par la suite, Léo m'a raconté qu'un jour, en voiture, Léo conduisait, bien entendu, Madeleine ne savait pas conduire. Madeleine en avait marre. Et des bois, et des bestiaux, et de tout ça. Je la comprends. Hein. Elle dit, Léo, faut qu'on en finisse. Tu vois cette bagnole qui arrive en face. Si t'es pas un PD, tu lui rentres dans le chou. Et on en a fini. Alors Léo, il freine, il se range, il dit, attends, Madeleine, ne me parle pas comme ça. Tu te rends compte? Et elle lui dit, de toute façon, un jour, je voyagerai derrière avec un sac plastique et quand tu rousseras bien, bien rapide, je t'enfilerai le sac plastique sur la tête. C'est pour te dire qu'elle était quand même au bout du rouleau, quoi. Bon, alors, le temps passe. Nous sommes au mois de mars 68. Alors, rigole, 22 mars 68. C'est pas le mouvement du 22 mars de Nanterre, c'est le mouvement du 22 mars de Léo. Le 22 mars, il y avait le lendemain un gala à Évreux ou Elbeuf, Elbeuf, je crois. Alors, il faut dire aussi que quand il voyageait de nuit à cause du départ. Parce que Pépé, elle avait tellement valdingué dans les arbres qu'elle était claquée, donc on l'a couché à 7 heures du soir et après on était peinard. Alors là, il partait comme d'habitude une fois Pépé couché, c'est-à-dire en roulant de nuit. Alors Léo, à l'époque, il avait une DS, oui. Il couche le dossier avant, il y étend un plaid, Et quand Madeleine se pointe pour embarquer, il dit, tu vois, je t'ai préparé. Elle dit, ah non, moi aujourd'hui, je voyage derrière. Et il dit, ah oui, avec un sac plastique? Eh ben alors, sans moi. Et il a rebasé le truc et il s'est tiré tout seul à Elbeuf. Le lendemain, en rentrant, il ne peut pas s'empêcher, mais bien entendu, il s'arrête près de Châteauroux et il appelle Madeleine en disant, écoute Madeleine, je rentre, mais il faut que ça change, ça ne peut pas continuer comme ça. Elle dit, rentre si tu veux, mais je te préviens, j'ai acheté un pistolet et il faudra que tu files doux. Alors Léo dit, ah bon, ben alors, si tu me mets à la porte, très bien, et il raccroche. Tiens-toi bien, la ville d'où il a téléphoné s'appelait Vatan. Vatan, près de Châteauroux. Et j'ai dit, ben attends Léo, c'est pas un hasard. Et il est allé chez Maurice Angéli, d'où il m'a téléphoné. Et nous nous sommes téléphonés comme ça tous les jours.
Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend me voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels la multitude vit, sous le fouet du plaisir se bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servie. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée. Surgir du fond des eaux, le regret souriant. Le soleil moribond s'endormit sous une arche. Et comme un long linceul traînant à l'horizon. Entends, ma chère, entends la douce nuit.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après Madeleine d'un point de vue artistique? 69, c'est la création du chien. Est-ce qu'il y a une liberté artistique, une liberté,
bien entendu,
personnelle, professionnelle?
Exemple. Les Anarchistes est une chanson écrite en 67. Et Madeleine a refusé qu'elle figure, cette chanson, sur le disque qui est sorti à ce moment-là, où il doit y avoir, si je ne me gourre pas, la Marseillaise.
Salut Beatnik,
oui, voilà. Quartier latin, je ne sais plus quoi. Madeleine lui a dit, non, si tu commences à t'embringuer dans l'histoire d'anarchiste, moi, j'espère pour toi une carrière à la Maurice Chevalier, tu ne dois pas chanter des anarchistes. C'est un exemple. Et donc, il a chanté cette chanson-là, la première fois, le 10 mai à la Mutualité.
Thank you.
n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves vomitant. Et puis âme toute rongée par des foutues idées. Il n'y en a pas sur 100 et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais. Que quand on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois. Que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas sur 100 et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier qu'il y a toujours dans la rue un anarchiste. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir. Et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié, et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'il n'y en a pas sur 100 et pourtant ils existent, ils se tiennent très bien. Bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout.
Tu vois, chérie, je reparle toujours d'Annie, et vraiment, ce soir, je te demande pardon d'avoir mis tes pas dans mes pas, d'avoir tant gâché ta vie pour elle. non, pas gâché, d'avoir tant donné. Pour moi, peut-être, mais tu m'as dit, sur le quai de la gare, elle n'a pas couru dans mes bras. Elle a dit, je ne viens pas à genoux. Elle devrait revenir en rampant. Et ça, je l'ai bien compris. C'est une preuve d'amour pour moi, tout ce que tu as fait pour cet enfant qui n'est pas sorti de tes chromosomes. Quelle preuve d'amour, chérie. Mais maintenant, les liens sont dénoués. Aime-moi pour autre chose. Je ne te demanderai plus les mêmes preuves d'amour. Je t'en demanderai sûrement d'autres. Avec mes varices, comme dit Annie. Je trouve que Léo a l'air triste, les yeux cernés souvent. Comme il me regarde, doit le faire souffrir. J'aime bien ce calme et cette paix ici. Alors pourquoi suis-je obsédée par ce que les autres appellent la carrière de Léo ? J'ai l'impression d'être coupable. S'il ne m'avait pas, où serait-il maintenant ? Il serait peut-être comme traîné ou chevalier, bien plus riche. Il ne cesserait pas de travailler, de se produire. Je pense toujours à ça. Je me sens coupable. Avec Pépé, évidemment, aussi. Je me sens coupable de Pépé. Le retour d'Annie ne ressemble en rien au retour de l'enfant prodigue avec le veau gras. Le retour d'Annie, c'est un négatif. Je vois tout en négatif. Je la vois telle qu'elle est. Elle n'a plus besoin de nous. Je pensais qu'elle était échappée. Elle n'a jamais été dans notre cercle. De quoi j'ai peur ? Qu'elle ait faim ? Elle n'aura jamais faim. Qu'elle manque d'argent ? On lui en donnera toujours. Chez le père Zibiche, tu es bien ? Elle ne veut pas en partir. Elle est mieux qu'à l'hôtel. Alors c'est comme une grande flambée d'amour. Il me reste toi. J'ai l'impression que tu es sur un piédestal ce soir. Il me reste toi et nos emmerdements. Et ma pépé. Mais ça vaut mieux. Ça vaut mieux que la gouance. La gouance. Se tromper sur les êtres sous prétexte que tu les as pondus, qui sont sortis de ton ventre, c'est horrible. Quelqu'un qui est sorti de ton ventre et qui te parle un langage étranger. Je peux parler des heures avec Annie, lui dire « Alors, Martine, alors, Françoise, alors ?» Une telle, je me rends compte que... rien, et surtout pas moi. Pas toi. Mon chéri, pas Golo. Golo qui lui mettait les pattes autour des épaules. Elle disait « Oui, 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 mon Golo. » Rien, personne, personne ne peut l'atteindre. Qu'un amour qu'elle a peut-être, je lui souhaite. Signalons au passage un grand bonheur pour moi. Léo va changer la voiture d'Annie pour ses 21 ans. Bien qu'on ne soit pas très riche. Et je vis ici avec la joie que tu lui as donnée. J'en ai pour un bon moment, une petite réserve de pensées agréables. Oui, mon chéri, je suis une emmerdeuse, une méchante, une hargneuse, une menteuse, une autoritaire, une jalouse, une hypocrite, une mystificatrice, une coléreuse. J'arrive au bout de tes patiences, ça ce n'est pas difficile. Mais plus grave, je plonge notre couple dans l'enfer. Charbons ardents où nous brûlons. Les grandes justifications, le supplice pour moi du mot comme tantale que j'essaye de cueillir en vain longtemps. Non, celui-là n'est pas assez cruel, il ne fera pas assez mal. Et tout à coup, je me le gobe, je me le sucre, et je te le revomis, toi, Léo, en pleine gueule, portant son poids entier d'horreur. Il faut qu'il soit injuste, outrancier, malvenu, étonnant.
Je ne sais pas l'an que je viens de vivre, dans la feuille morte où vient de passer toute la vénure et l'âme du givre. Tout le délaissé de tout ce passé. Je ne sais pas l'heure, et l'heure me tire, et me tire au bord de la vérité. Si pour le meilleur j'ai laissé le pire m'a mis le meilleur au cœur, la morale offert, et tout cet empire de désirs non nus et de beaux malheurs. Justice soit faite au bas de la carte où mon astrologue avait eu ma peur. De peur prescrite, il faut qu'elle écarte le grain délivré au mieux des saisons réclamant son dû, et puis qu'elle parte, accrocher mon œil à l'œil du pardon, paradis construit d'âmes linéaires. Je sens dans le creux de vos oraisons le parfum lassé d'un brin de bruyère, comme d'un automne à peine exaucé, quand l'hiver se range au bord des rivières, et que des miroirs coulent vers glacé dans le feu dormant rose des contraintes. Je sais que sommeil, un désir glacé. Tout est sur la brèche, et même la plainte qui va s'échapper, comme un jour descend de ce cheval triste et fou, qu'on éreinte, sur le long charroi que la mort surprend. Cette plainte-là, comme un diadème, ceint sa tête un peu d'étoiles de sang. De toute éternité, c'est dans le thème que la nature doit traduire au mieux de la finitude et de son dilemme. Vivre sur l'horrible et gagner au jeu de la marguerite effeuillée quand même. Je t'aime, c'est du meurtre à petit feu. Ô Nietzsche grippé, naseau de tyran, ce fiacre roulant dans le fantastique et la folie te prenant par la main. J'entends dans la rue une hypomusique, ô Nietzsche, l'entends-tu? C'est du chagrin avec le mort au cœur. C'est une clique et ces tambours voilés frappent le temps sur le pavé des cours et de ta gloire, avec des chevaux se remémorant, avec des chevaux à la voile noire, mâchant de la mort le sourire aux dents, cédant comme des trous dans la mémoire.
Thank you.
Et un jour, le temps passe, hein, quelques jours passent. 22 mars, une quinzaine de jours passent. Moi, de temps en temps, j'avais des nouvelles de ce qui se passait là-bas, et ce n'était pas la joie, par Marie. Marie, la servante et amie, qui est ma vieille amie. Et Marie me disait, oh là là, c'est pas la joie, etc. Et un jour, elle me téléphone. C'était je suis en train de me répéter la chanson.
7 avril,
le 7 avril, hein, c'est ça. Elle me téléphone le 6, donc le samedi. Elle me téléphone le 6 en disant, Maurice, cette fois je t'appelle de la part de Madeleine. Elle m'a dit, si quelqu'un sait où est Léo, c'est Maurice. Alors préviens Maurice, qui dit bien à Léo, que moi je ne peux pas continuer comme ça, il peut le comprendre, et que si demain soir, 7 avril, il n'est pas rentré, je fais tuer Pépé.
A commandé à un tueur, le chef des chasseurs là, de l'endroit où j'étais, et elle l'a fait massacrer. Pépé, elle était par terre, allongée, avec dans la tête, quoi. Elle avait été tuée. Et quand je suis arrivé dans cette maison, où la femme qui avait l'autorité, a eu l'autorité de faire ça, qui se l'est prise, quoi. Elle est partie, elle avait laissé une femme qui, pour regarder la maison, quoi, pour faire le ménage, avec une autre qui était venue, je parle dans l'autre, ça, était venue, quand je suis arrivé, ces deux femmes dansaient avec un phonographe. Je suis monté au premier étage, et Pépé était morte, comme ça.
Elle est retrouvée, quoi, l'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Mon âme éternelle observe ton vœu, malgré la nuit seule et le jour en feu. Donc tu te dégages des humains suffrages, des communs élans, tu voles selon. Jamais l'espérance, pas de rieture, science, patience, le supplice est sûr. Plus de l'eau de braise de satin, votre ardeur est le devoir. Elle est retrouvée, quoi, l'éternité, c'est la mer mêlée. Soleil.
Il y avait une personne qui, chez qui Léo allait souvent s'approvisionner, c'était la ruche, donc avec ruchette et rucher, comme ils les appelaient. Et donc, ils allaient régulièrement, Léo ou Madeleine allaient régulièrement faire les commissions, etc. Et Ruchette livrait le soir, en partant, la commande. Et c'est pareil, elle me racontait aussi qu'elle a passé souvent des soirées à écouter Léo au piano, etc. Et...
Au mois de juillet, 62. Il y a beaucoup de touristes, et parmi ces touristes, il y en avait un qui avait un panier à son bras, qui avait l'air très décontracté. Il ressemblait à un vrai paysan du coin, avec ses chaussures attachées avec des ficelles. Et puis, je l'ai servi. Et en face du magasin que nous tenions, il y a un café. Et il y a beaucoup de monde qui regardait, mais bon. Un monsieur d'en face du café arrive et me dit « Dis donc, mais tu as vu Léo Ferré ?» Je dis « Non, j'ai pas vu Léo. Mais tu viens de le servir !» Et il avait un gros pain sous le bras et son panier toujours. Bon. Et puis il est revenu le surlendemain et tous les jours. Et de fil en aiguille, ben, on a parlé. Et il a laissé le panier, il allait au boucher, il groupait ses choses à la maison. Et puis après... Il y a eu le dialogue, on a parlé beaucoup. Moi, je suis bavarde, alors il a dû s'en rendre compte. Et puis, on allait beaucoup à Perdrigal. On était des rares privilégiés à être reçus là-haut, et à n'importe quelle heure, et être bien reçus. Et on y passait des moments inoubliables. On ne peut pas le dire comme on le ressent. C'est pas possible. Mais on a eu de très bons moments ensemble. Il venait manger à la maison, Mais il était tellement intéressant. Ça changeait tout à fait. Il avait un air bon, un regard bon. C'était la bonté. Là. Il était très gentil, mais il ne fallait pas le truander. Hein, parce que là, on avait droit à son petit chapitre. Mais Pépé, c'était un personnage. Je me souviens un jour de 1er mai, j'avais du muguet sur la caisse, un beau bouquet de muguet. Il était revenu d'Italie, tout était fini, mais... Ah, il m'a dit, je te prendrai bien un peu de muguet, mais j'ai dit, pour porter sur la tombe de Pépé. Alors, ça devait être en 68. Et après, il est venu, on a mangé la poule au pot, mais il était triste.
T'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben oui. Pépé, 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 t'avais les yeux comme des lucarnes, Pépé. Comme on en voit dans le port d'Anvers, quand les marins ont l'âme verte et qu'il leur faut des yeux de rechange pour regarder la nuit des autres, comme on regardait un chimpanzé chez les ferrés. Pépé, 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 t'avais le cœur comme un tambour, Pépé, de ceux qu'on voile le vendredi saint vers les 3 heures après-midi pour regarder Jésus machin souffler sur ses 33 bougies tandis que toi t'en avais 8. Le 7 avril de 68, Pépé, Pépé. Je voudrais avoir les mains de la mort, Pépé. Les yeux et puis le cœur et m'en venir coucher chez toi, ça changerait rien à mon décor. On couche toujours avec des morts, on couche toujours avec des morts, on couche toujours avec des morts, on couche toujours avec des morts.
C'est ce qui manque dans ce monde. C'est ce qui manque.
L'intelligence. La connerie, c'est trop vivant, trop présent.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. 89.4 FM, www.radio-libertaire.net. Merci Chris, merci Sylvie pour cette très belle émission du Ferré Club. Il était peut-être temps de remettre quelques pendules à l'heure. On peut conseiller vivement à ces gens de la radio d'État qui nous expliquent que Léo Ferré était quelqu'un qui aimait bien les choses de l'argent. On peut leur recommander l'écoute de cette émission. Salut à toi. On se retrouve non pas la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Ferré Club. Il y aura bel et bien un nouveau numéro du Ferré Club la semaine prochaine. Mais on se retrouve lundi soir. Lundi soir entre 21h et 5h, 5h30, 6h, on verra, en fonction de l'envie. 100% Léo, à partir de 21h, le Ferré Club hors série, comme l'année dernière, même si l'équipe sera bien plus restreinte cette année. Mais lundi 15 juillet, à partir de 21h, on se retrouve sur cette antenne, en direct, bien évidemment. Et le Ferré Club sera bien sûr présent en direct tous les mercredis de l'été. Hein, au moment où les vacances sociales sont sifflées. Tu siffles, toi? T'obéis, toi, quand on siffle? Bah, non. Ah bon? Bah, il y en a plein qui obéissent. Bah, tiens, c'est bizarre. Prenez soin de vous, prenez soin d'elle. Ciao.